La diversité des hommes ne se révèle pas seulement dans la diversité des catégories des biens établis par eux, c'est-à-dire dans ce fait qu'ils considèrent des biens différents comme désirables, qu'ils sont en désaccord sur le degré de valeur, sur la hiérarchie des biens communément reconnus, elle se révèle davantage encore dans ce que les hommes considèrent réellement, comme la propriété et la possession d'un bien. En ce qui concerne la femme, par exemple, un homme modeste se satisfera de la possession de son corps et de la jouissance sexuelle, signe suffisant qu'il la possède en propre. Un autre, dans son désir plus méfiant et plus exigeant, voit ce qu'une telle propriété a d'incertain et d'illusoire, et exige des preuves plus subtiles. Il veut avant tout savoir non seulement si la femme se donne à lui, mais aussi si elle renonce en sa faveur à ce qu'elle a ou à ce qu'elle aimerait avoir. C'est de cette façon seulement qu'elle lui semble posséder. Mais alors un troisième ne sera pas encore au bout de sa défiance et de son goût accaparateur. Il se demandera si la femme, lorsqu'elle renonce à tout en sa faveur, ne le fait pas pour un fantôme de lui-même. Il veut avant tout être connu à fond, et pour être aimé, il ose se laisser deviner. Il ne sent l'aimer en sa complète possession que quand elle ne se méprend plus sur son compte, quand elle l'aime tout autant pour son satanisme, son avidité insatiable et cachée, que pour sa bonté, sa patience et son esprit. Celui-là voudrait posséder un peuple, et tous les tours d'adresse d'un Cagliostro et d'un Catilina lui conviendront à cette fin. Un autre, avec une soif de possession plus distinguée, se dira, ouvrez les guillemets, il ne faut pas tromper quand on veut posséder, fermez les guillemets. Il sera irrité et impatient à l'idée que c'est son masque qui commande au cœur du peuple, ouvrez les guillemets. Donc, il faut que je me fasse connaître et, tout d'abord, il faut me connaître moi-même, fermez les guillemets. Chez les hommes serviables et bienfaisants, on rencontre régulièrement cette ruse grossière qui commence par se créer une image erronée de celui à qui ils doivent venir en aide. Ils veulent, par exemple, qu'ils méritent d'être secourus, qu'il ait besoin précisément de leur aide, et qu'ils leur en doivent être profondément reconnaissants, attachés et soumis. Avec ces idées fausses, ils disposent de l'indigent comme d'une propriété, car c'est leur désir même de propriété qui les rend serviables et bienfaisants. On les trouve jaloux quand on se rencontre avec eux ou qu'on les précède dans un secours à donner. Les parents, involontairement, font de l'enfant quelque chose de semblable à eux-mêmes. Ils appellent cela éducation. Aucune mère ne doute dans le fond de son cœur que l'enfant qu'elle a est sa propriété. Aucun père ne se refuse le droit de soumettre son enfant à ses propres conceptions et à ses appréciations. Autrefois, à l'exemple des anciens Germains, les pères ne craignaient même pas de disposer à leur fantaisie de la vie et de la mort des nouveau-nés. Et comme le père, le maître, la classe, le prêtre, le souverain, voient dans tout homme nouveau une occasion incontestée de possession nouvelle. D'où il suit